corps, mécanisme velouté,
mixage fusionnel.
Bonsoir, c'est le dernier plateau d'aujourd'hui et nous continuons notre exploration sur le territoire de Jura avec l'équipe de Les Aventures Super Vite, Sylvie André, et Olivier Kunzi et Romain Siegenthaler, j'espère que j'ai bien prononcé. Nous venons d'accueillir Emilien Gure pour parler de la programmation de l'imaginaire de Jura. Il y a une projection très exclusive qui comprend une proposition très intéressante qui est qualifiée dans le programme comme OVNI documentaire qui comprend deux films faits avec les films Super Vite retrouvés dans des brocantes, films de famille qui qui comprend le film de famille de la région de Jura et l'autre à Belfort. Donc nous sommes avec Sylvie André et Olivier Kunze et Romain Siegenthaler. Bonjour d'abord.
Bonjour.
Bonjour.
Moi, j'étais vraiment étonnée par ces propositions parce que ces films sont qui viennent d'un imaginaire populaire et qui se situe entre l'espace privé et public. Mais le fait que ce film font partie de la programmation est une proposition très intéressante parce qu'on voit beaucoup de films d'auteurs, mais qui à la base se nourrissent d'un imaginaire collectif du peuple. Et c'est comme si on voit l'inverse du miroir avec vos travaux collectifs, disons. Mais à la base, c'est une proposition de Galactica Productions. Donc, vous avez travaillé avec le festival en collaboration pour dans le cadre de cette section. Mais je suis curieuse de savoir si, en tant qu'association qui travaille aussi dans des projets culturels comme le Bois du Doc, est-ce que vous avez déjà connu Belfort avant ? Donc, vous avez déjà des liens avec le festival lui-même ?
À la base, non. On a démarré tout seul Jura Super 8. Donc, c'est un photographe qui nous a donné les bobines de Jura Super 8. Et une fois qu'on a fini Jura Super 8, on s'est dit qu'on aimerait bien travailler avec une autre association et impliquer le canton du Jura et le territoire de Belfort et d'en faire un projet transfrontalier. Et puis, on a cherché une association qui était similaire à la nôtre. Et du coup, on a rencontré Cinéma d'aujourd'hui. On est allé leur présenter Jura Super 8. Et de là est née cette collaboration et puis le développement du projet Belfort Super 8. On a travaillé avec le Mois du Doc, enfin avec le réseau des médiathèques pour récupérer les bobines. Et puis Cinéma d'aujourd'hui nous a proposé de le programmer ici à Entrevue.
Donc le projet, les matériaux eux-mêmes étaient proposés à vous. Donc moi j'ai une question pour Olivier. Est-ce que cette pratique, ce défi était déjà quelque chose qui vous passionnait avant ou c'était vraiment cette occasion qui vous a motivé à travailler avec ce format-là ?
Alors je dirais à la base je suis un très grand fan de cinéma. Et puis à partir de cette idée, ces bobines du photographe Jero Siegenthaler, voilà, j'ai un peu découvert ces bobines et forcément avec mes références cinématographiques, quand je monte une de ces petites histoires, j'ai toujours en tête un film, une référence. Donc j'essaie de faire un montage cinématographique.
Et on a entendu Siegenthaler. Donc est-ce que vous avez un lien avec le photographe qui aurait trouvé ces bobines justement, Romain ?
Oui, c'est mon frère.
Donc c'est à travers lui que vous avez vous êtes rencontrés. Comment ça s'est passé pour la musique ou bien vous connaissez déjà ?
On se connaissait pas du tout. En fait c'est mon frère quand il a rencontré Olivier et Sylvie qui leur a dit que je faisais de la musique et puis que peut-être ça pouvait être intéressant de travailler avec moi. Puis c'est comme ça qu'on a lancé l'aventure.
Et Olivier, vous parliez de références cinématographiques. Alors justement, on est un peu curieux. Quelles étaient-elles sur le travail, sur ce matériau-là, pour ce film ?
Par exemple, on a parfois des grandes fêtes de famille. Et pour moi, ça peut faire penser aux parrains au début, à cette grande fête. Qu'est-ce qu'on peut aussi avoir par exemple les films de John Cassavetes, où c'est des films où des gens se rencontrent, discutent, s'amusent autour d'une table. Ça peut aller assez loin. Après, il y a aussi des moments comiques hein, dans le film. À la fin des deux épisodes, on a un moment un peu plus léger. Et puis là, on peut penser aux comédies italiennes de Marco Ferreri. Voilà, il y a plein de... Et à un moment donné aussi, par exemple, un épisode qui se passe en Italie. Et puis là, j'ai pensé au cinéma de Rossellini, par exemple. J'essaie un peu de... Mais je pense que personne ne s'en aperçoit. Mais en tout cas, pour moi, c'est une référence.
Ce sont des belles références, un pic qui émane aussi de la matérialité même de ce matériel, enfin de ces plans, de ces bouts de films retrouvés, puisque... la matière argentique, c'est celle par exemple qu'utilisait Cassavetes. Vous parliez de Cassavetes, il a utilisé, alors je ne sais pas s'il a utilisé Super 8, mais il utilisait en tout cas le 16 mm. Et il y avait une vraie matérialité dans ces images. Et aussi, quand il filmait en couleur, il y avait des couleurs qui, par le processus de développement, apparaissaient à l'écran d'une façon assez puissante. Il y avait une présence comme ça des couleurs qu'on retrouve aussi d'ailleurs dans les images que vous avez montées.
Voilà, effectivement. Par exemple, je pense à l'épisode du mariage. C'est des images qui datent des années 60, 70. Et puis, effectivement, on voit ce couple qui s'embrasse, qui se regarde amoureusement, qui s'embrasse. Et pour moi, je pense être du Cassavetes.
Vous parlez de matérialité des images. Je suis curieuse parce que est-ce que toutes les images qu'on voit dans le film étaient retrouvées dans les brocantes, ou comment les images que vous avez retrouvées dans des qui figurent dans deux films se différencient d'un point de vue de la source? Est-ce que vous avez fait un appel des habitants de la région pour... parce que je sais que parfois, quand il y a des projets de recherche autour de films de famille, on fait souvent appel à les habitants de la région pour amener de leur collection, de leur propre archives familiales ou personnelles. Donc, est-ce que vous avez fait ce type d'appel ou recherche, ou c'était purement des... coïncidence hasardeuse que vous retrouvez, vous tombez sur ces images-là?
Alors, pour Jura Super 8, c'est Gero Siegenthaler, le photographe, qui avait ces images. Alors, soit il les trouve en brocante, ou c'est des personnes qui lui amènent des images dans ce lieu, dans le lieu qu'il gère, la Galerie du Sauvage, qui est un lieu de référence. Donc, la base, c'est Gero qui nous a filé les bobines. Et pour Belfort Super 8, là, on a fait appel au réseau des médiathèques, à Cinéma d'aujourd'hui, et là on a fait un appel à récolte de bobines. Donc voilà.
Et le processus de numérisation, parce que j'imagine que quand vous avez récupéré les bobines, c'était les bobines. Donc comment ça s'est passé pour la numérisation? Est-ce que vous étiez impliqué dans le processus? C'était plutôt une sorte de collaboration avec d'autres réseaux dont vous parlez là tout à l'heure?
Alors là, c'est aussi le photographe, donc Gero Siegenthaler, qui avait récupéré ses bobines, qui a fait la démarche de les amener dans une entreprise qui est vraiment de qualité. C'est-à-dire que beaucoup proposent ce genre de service, mais peu le font de très très bonne qualité. Et puis alors donc, c'est avec cette même entreprise qu'on a numérisé les bobines des deux films.
Vous parlez dans les catalogues, on parle de scénarisation. Donc, je suis curieuse d'entendre un peu comment vous avez abordé les matériaux qui vous a été donné. Donc, sûrement, on aurait pu inventer plusieurs histoires avec ces images. Donc, je suis curieuse dans les deux, surtout dans, par exemple, le premier, il y a des images récurrentes des voitures. Donc, c'est le thème, c'est la vacance. Donc, ils sont un peu construites sur cette l'idée de partir ailleurs. Donc, il y a forcément une ligne directrice qui orchestre ces images. Et la deuxième, c'est plus l'intimité d'une fête de Noël qui revient de manière récurrente. Donc, oui, peut-être parlons un peu de cette scénarisation qu'on lit dans le catalogue.
Alors donc j'ai reçu beaucoup beaucoup d'heures de films, et puis il y a plusieurs histoires. Donc la première étape, c'est déjà de faire un choix, de voir laquelle de ces histoires a le plus de matière pour développer quelque chose. Et une fois que ce premier choix a été fait, il faut donc visionner toutes ces heures de bobine. Et puis, forcément, il y a beaucoup de choses qu'on ne pourra pas garder. La plupart de ces bobines, c'est des voyages. Quand les gens prenaient leur caméra et investissaient dans des bobines Super 8, c'était toujours pour filmer leurs vacances. Donc ça, je dirais que c'est les deux tiers de la matière qu'on a reçue, c'est des gens qui partent en vacances et qui filment beaucoup, beaucoup de paysages. Alors forcément, ça enlève déjà beaucoup. Le montage, il commence à ce moment-là. Il faut déjà enlever, choisir quelques plans de paysages. Et puis après, c'est surtout se concentrer sur les personnages. Et puis, parfois, on a de la chance parce qu'il y a des personnages récurrents. Et puis, c'est faire un montage pour essayer de faire de ce personnage récurrent le personnage principal de l'histoire. C'est là que commence le travail de scénarisation. Et puis voilà, après on a eu un premier jet, et puis après il faut travailler le rythme, le montage, et puis c'est diminué pour arriver en moyenne à une histoire de 4 minutes, parce que sinon on ennuie le spectateur.
Comme on parle de rythme, parlons un peu de la musique, du montage, mixage son, qui quand même ajoute un niveau, un extra niveau, un niveau sur la narration, sur les récits. Est-ce que vous étiez déjà impliqué dans le processus de mixage alors que Olivier travaillait sur le montage? C'était après coup que vous avez commencé à vraiment penser à la composition?
Je crois que c'est surtout une histoire de timing. On n'a pas pu faire, on n'a pas pu se permettre de travailler entre guillemets ensemble pour l'instant. Donc ils ont monté les films, et ensuite moi j'ai reçu le produit entre guillemets fini, et j'ai dû travailler à partir de là, ce qui donne peut-être aussi un résultat particulier, un peu frais ou je sais pas, immédiat.
La difficulté, c'est que le montage en soi, c'est une musique. Il y a une vraie musicalité, il y a un rythme qui émane de ces images scandées. Vous devez apporter votre musique là-dessus, en tout cas votre sensibilité de musicien. Mm-hmm. L'écueil, ce serait pas justement d'essayer d'illustrer ce premier rythme par des sons, et finalement le geste artistique, ce serait pas justement de chercher le pas de côté, de chercher la sensibilité personnelle pour vraiment apporter une couleur en plus à ce tableau.
Alors je pense que j'essaie de faire, c'est, je regarde à chaque fois, je regarde le film plusieurs fois, jusqu'à quand il y a une espèce de rythme ou de contre-rythme qui apparaît naturellement. Et puis, en général, c'est très long au début. Et tout d'un coup, c'est comme une espèce d'éclosion. Les idées, elles arrivent, ça se fait tout naturellement. Et puis, il y a beaucoup de choses qui en fait, qui sont coordonnées naturellement, comme un peu par hasard, quoi. Je pense que ça paraît, il faut un peu ressentir les choses, et puis j'essaie de me faire un peu mon histoire en le regardant, de vibrer, et puis après d'essayer de ressortir quelque chose d'intemporel et de peut-être un petit peu psychédélique ou du domaine des songes, ou quelque chose de pas très concret mais quand même accessible aussi, voilà.
On entend, peut-être c'est moi qui ai entendu, mais on entend un peu les effets sonores de Star Wars. Est-ce que c'est bien le cas ou pas?
Ça ressemble, ouais.
Oui, ça ressemble beaucoup. J'ai pensé à Chewbacca à un moment, on l'entend derrière. Oui.
C'était l'idée. Ça ressemble pour pas avoir de problème avec Walt Disney.
C'est ça.
Et Olivier, je reviens vers vous. Vous utilisez des plans de comment dire, d'introduction des Pâté Baby, par exemple. Vous avez gardé ces plans qui introduisent une sorte de format. On a l'impression que vous ne cherchez pas à couper des images que vous avez reçues. C'est un geste qu'on voit souvent dans des films expérimentaux qui retravaillent aussi beaucoup les films d'archives, mais j'ai l'impression qu'il y a une autre approche, un autre geste chez vous. Pas vraiment dans la déconstruction des images, mais plus sur un hommage ou une sorte de générosité. Donc, vous coupez pas, vous vous le gardez dans l'intégralité peut-être ? Est-ce que c'est une impression fausse ou que diriez-vous ?
Alors, je dirais quand même qu'il y a un énorme travail de montage. Effectivement, il y a un épisode qui est un peu plus vieux que les autres, qui date de 1927. Et puis, effectivement, j'aime parfois laisser un peu des longueurs, ça, qui est inhérente à l'époque, hein, de 1927. Et puis, contrairement à peut-être ce qu'on pourrait croire, si je laisse parfois des longueurs, etc., les images ont quand même été choisies. Et puis, finalement, si on regarde bien, il se passe toujours quand même quelque chose. Et puis, par exemple, si on parle de cet épisode, il a été divisé en trois. Et puis, j'ai pris ce logo de Pâté Baby pour subdiviser cette histoire en trois. Parce qu'effectivement, c'est peut-être l'épisode qui a le rythme le plus lent. Et puis, ça permet quand même au spectateur d'avoir une lecture, de faciliter sa lecture en divisant par trois l'épisode, et puis, mais en, tout en gardant quand même une certaine lenteur.
Comme les Jurassiens partent en vacances, ça a été déjà montré en 2024, j'imagine. Vous avez eu des retours du public de la région, je suis curieux. Comment est-ce qu'il y avait eu des gens qui vont dire, voilà, je vois mon grand-père ici, là, ou des gens qui reconnaissaient des lieux, peut-être des images qui leur paraissaient familières. Est-ce que vous avez eu ce genre de rencontres, des interactions avec le public?
Oui, c'est assez. Enfin, il y a deux publics différents. Donc, quand on a présenté Jura Super 8 à la Galerie du Sauvage, les gens sont venus voir, je pense, pour voir s'ils reconnaissaient des gens. Et effectivement, c'est le cas. Donc, ça fait vraiment vivre le film. Et il y a beaucoup de réactions dans le public. J'entendais des gens qui chuchotaient en disant « Ah, mais c'est la maman d'un tel !» Donc, les gens se reconnaissent. On a projeté aussi Jura Super 8 ici à Val-d'Oie, à côté de Belfort. Et il y avait la même réaction des gens qui se remettent dans l'ambiance, qui rigolent, qui disent « Ah, mais je me souviens du karting !» Je me souviens. Donc, ça fait appel à la mémoire. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous fait vraiment vibrer avec ce film. C'est ce que ça évoque chez les gens. Et puis, par exemple, quand on a projeté le Jura Super 8 au festival Les Digitales, donc un festival de musique électronique en fermeture de ce festival, il y avait aussi de la part d'un public plus jeune des réactions en disant « Ah, c'était comme ça !» ou de rigoler comme, par exemple, les vacances au bord du Doubs. Quand ils sont près de la tente, ça évoque chez les gens pas mal de réactions dans le public. Et c'est génial. Et au digital, il y a une dame qui est venue avec son déambulateur. Elle a 80 ans. Elle est venue pour voir le film. Il y a vraiment c'est vraiment un projet qui rassemble soit les plus jeunes à travers la musique de Romain ou bien les images qui datent des années avant, en fait.
Moi, une réflexion peut-être personnelle sur Jura Super 8 et Belfort Super 8 qui concerne en fait le fait qu'on a une émotion à la découverte de ces films de vacances avec, sur lesquels vous avez travaillé. C'est qu'on se rend compte que bien c'était des films amateurs, mais c'était aussi du travail. C'est-à-dire comme si la technique, ces caméras qui nécessitaient un savoir-faire, eh bien, la noblesse de cet appareil obligeait les gens qui s'en servaient à faire attention, à réfléchir où on met la caméra, comment on dirige la scène, qu'est-ce qu'on monte, qu'est-ce qu'on fait entrer dans le plan, où est-ce qu'on va chercher justement des choses belles à montrer et une esthétique à soigner. Et je me rends compte que finalement, dans 40, 50 ans, quand une association voudra peut-être faire la même chose avec les films qu'on fait maintenant, quand on est en vacances avec nos objets, nos smartphones, etc., on ne pourra pas le faire parce qu'en fait, l'objet est tellement trivial qu'on fait plus ou moins n'importe quoi en fait, quand on est en vacances avec. On ne se pose plus ces questions justement de mise en scène. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a frappé. C'est de voir qu'effectivement, c'est des gens qui sans nom, mais qui faisaient un travail de cinéaste.
Oui, après, il faut voir aussi les images quand on les reçoit sur la longueur. Ça, on ne se rend pas compte du travail de montage qu'il y a derrière. Donc, ça peut paraître très, très construit, etc. Mais les images brutes, enfin voilà, il y a beaucoup à mettre de côté. Mais par contre, ce que personnellement je trouve assez fort, c'est quand on voit les gens qui découvrent la caméra et comment ils se comportent devant la caméra. Ils sont un peu timides, ils savent pas quoi faire, ils sont pas comme ça en train de faire des selfies, etc. On voit une certaine gêne de dire « Ah, ben c'est la première fois qu'on voit une caméra ». Et ça, je trouve assez fort, ça, on retrouvera pas. Et puis, c'est vrai qu'il y a dans le lot de ce qu'on reçoit, on est parfois tellement content en disant « Mais ça, c'est super bien filmé ». Effectivement, il y a vraiment des super plans à ressortir. Mais il faut aller les trouver. Enfin, c'est 20% de ce qu'on reçoit. Et c'est vraiment le travail d'Olivier d'aller rechercher la scène et puis de faire le montage final parce que tout coule de source, etc. Et puis... Et puis voilà, mais effectivement, on a des super bonnes surprises. Ouais.
Il me semble que vous avez fait pas mal de visionnage pour les matériaux, pour les classer, catégoriser ou choisir entre eux. Et parmi vos impressions en regardant ces images, est-ce que vous avez eu sur la nature des personnes qui filmaient, pas la nature, mais sur ceux qui sont... Parce qu'il me semble qu'il y a quand même une sorte de différence de classe qui peut avoir accès à ces appareils à cette époque-là était quand même une classe peut-être moyenne et supérieure disons blanche, français, suisse. Et est-ce que vous avez eu des impressions concernant cette différence? Parce que par exemple vers la fin du Balfour Super 8, quand il part en vacances, je pense que c'est l'épisode final. Il part en vacances et c'est uniquement là-bas qu'on voit les personnes noires filmées par les blancs. Donc cet épisode m'a vraiment impressionné parce que les personnes noires ou les personnes racisées n'ont pas pu filmer peut-être, mais peut-être qu'ils avaient dans le parti que vous avez pas mis, mais je suis curieuse un peu de différence de les profils en regardant. Est-ce que vous avez détecté ces différences dans les images que vous visionnez?
Oui, effectivement. Donc, les personnes qui filmaient avaient un niveau supérieur. Ils avaient les moyens de s'acheter une caméra. Surtout, par exemple, si on pense aux épisodes des 1927, c'est un niveau supérieur. Et donc, forcément, c'est toujours un petit peu leur point de vue qu'on a comme matériau. On n'a pas vraiment... effectivement, c'est ce que vous dites. Donc, on est obligé de composer avec.
Merci pour cette conversation très très intéressante. Le film a été montré ce soir à 18h et demain et un dimanche, il y aura une projection dans le hall de cinéma en accès libre. Je pense qu'ils n'ont pas mis l'heure, mais est-ce que vous le savez?
Oui, donc ils m'ont dit que c'était en continu.
Ah ok, donc en boucle.
Oui, en boucle, ouais.
Ok, donc merci beaucoup, c'était Fluxport, merci Olivier, merci Nicolas.
Merci beaucoup, merci pour l'accueil.
Merci.
Fluxport.
Mécanisme velouté.
Mixage fusionnel.